Deuxième partie. Le proconsul fit trois pas à sa rencontre, et l'ayant salué d'une inclinaison de tête, « Quel bonheur » s'écria-t-elle, « que désormais Agrippa, l'ennemi de Tibère, fut dans l'impossibilité de nuire. » Il ignorait l'événement. Elle lui parut dangereuse. Et, comme Antipas jurait qu'il ferait tout pour l'empereur, Vitellius ajouta, « Même au détriment des autres ?» Il avait tiré des otages du roi des Parthes, et l'empereur n'y songeait plus. Car Antipas, présent à la conférence pour se faire valoir, en avait tout de suite expédié la nouvelle, de là une haine profonde et les retards à fournir des secours. Le tétrarque balbutia, mais Aulus dit en riant, « Calme-toi, je te protège !» Le proconsul feignit de n'avoir pas entendu. La fortune du père dépendait de la souillure du fils, et cette fleur des fanges de Caprée lui procurait des bénéfices tellement considérables qu'il l'entourait d'égards, tout en se méfiant, parce qu'elle était vénéneuse. Un tumulte s'éleva sous la porte. On introduisait une file de mules blanches montées par des personnages en costume de prêtre. C'étaient des sadducéens et des pharisiens, que la même ambition poussait à Machaerus, les premiers voulant obtenir la sacrificature et les autres la conserver. Leurs visages étaient sombres, ceux des pharisiens surtout, ennemis de Rome et du tétrarque. Les pans de leurs tuniques les embarrassaient dans la cohue, et leurs tiares chancelaient à leur front par-dessus des bandelettes de parchemin où des écritures étaient tracées. Presque en même temps arrivèrent des soldats de l'avant-garde. Ils avaient mis leurs boucliers dans des sacs par précaution contre la poussière, et derrière eux était Marcellus, lieutenant du proconsul, avec des publicains, serrant sur leurs aisselles des tablettes de bois. Antipas nomma les principaux de son entourage, Tolmaï, Cantera, Célion, Ammonius d'Alexandrie, qui lui achetait de l'asphalte, Naaman, capitaine de ses vélites, la cime de Babylonien. Vitellius avait remarqué Manaël. « Celui-là, qu'est-ce donc ?» Le tétrarque fit comprendre d'un geste que c'était le bourreau. Puis il présenta les sadducéens. Jonatas, un petit homme libre d'allure et parlant grec, supplia le maître de les honorer d'une visite à Jérusalem. Il s'y rendrait probablement. Éléazar, le nez crochu et la barbe longue, réclama pour les pharisiens le manteau du grand prêtre détenu dans la tour Antonia par l'autorité civile. Ensuite, les Galiléens dénoncèrent Ponce Pilate. À l'occasion d'un fou qui cherchait les vases d'or de David dans une caverne près de Samarie, il avait tué des habitants. Et tous parlaient à la fois, Manaël plus violemment que les autres, et Vitellius affirma que les criminels seraient punis. Des vociférations éclatèrent en face d'un portique où les soldats avaient suspendu leurs boucliers. Les housses étant défaites, on voyait sur les ombeaux la figure de César. C'était pour les Juifs une idolâtrie. Antipas les harangua, pendant que Vitellius, dans la colonnade sur un siège élevé, s'étonnait de leur fureur. Tibère avait eu raison d'en exiler 400 en Sardaigne, mais chez eux ils étaient forts, et il commanda de retirer les boucliers. Alors ils entourèrent le proconsul, en implorant des réparations d'injustice, des privilèges, des aumônes. Les vêtements étaient déchirés, on s'écrasait, et pour faire de la place, des esclaves avec des bâtons frappaient de droite et de gauche. Les plus voisins de la porte descendirent sur le sentier, d'autres le montaient, ils refluèrent, deux courants se croisaient dans cette masse d'hommes qui oscillait, comprimée par l'enceinte des murs. Vitellius demanda pourquoi tant de monde. Antipas en dit la cause, le festin de son anniversaire. Et il montra plusieurs de ces gens qui, penchés sur les créneaux, allaient d'immenses corbeilles de viande, de fruits, de légumes, des antilopes et des cigognes, de larges poissons couleur d'azur, des raisins, des pastèques, des grenades élevées en pyramide. Aulus n'y tint pas, il se précipita vers les cuisines, emporté par cette goinfrerie qui devait surprendre l'univers. En passant près d'un caveau, il aperçut des marmites pareilles à des cuirasses. Vitellius vint les regarder et exigea qu'on lui ouvrît les chambres souterraines de la forteresse. Elles étaient taillées dans le roc en haute voûte avec des piliers de distance en distance. La première contenait de vieilles armures, mais la seconde regorgeait de pics et qui allongeaient toutes leurs pointes émergeant d'un bouquet de plumes. La troisième semblait tapissée en nattes de roseaux, tant les flèches minces étaient perpendiculairement les unes à côté des autres. Des lames de cimeterre couvraient les parois de la quatrième. Au milieu de la cinquième, des rangs de casques faisaient avec leurs crêtes comme un bataillon de serpents rouges. On ne voyait dans la sixième que des carquois, dans la septième que des cnémides, dans la huitième que des brassards, dans les suivantes des fourches, des grappins, des échelles, des cordages, jusqu'à des mâts pour les catapultes, jusqu'à des grelots pour le poitrail des dromadaires. Et comme la montagne allait en s'élargissant vers sa base, évidée à l'intérieur tête une ruche d'abeilles, au-dessous de ses chambres, il y en avait de plus nombreuses et encore plus profondes. Vitellius, Phinéas, son interprète, et Sisenna, le chef des publicains, les parcouraient à la lumière des flambeaux que portaient trois eunuques. On distinguait dans l'ombre des choses hideuses inventées par les barbares. Casse-tête garnie de clous, javelot empoisonnant les blessures, tenailles qui ressemblaient à des mâchoires de crocodile. Enfin, le tétrarque possédait dans Macaerus des munitions de guerre pour 40 000 hommes. Il les avait rassemblés en prévision d'une alliance de ses ennemis. Mais le proconsul pouvait croire ou dire que c'était pour combattre les Romains, et il cherchait des explications. Elles n'étaient pas à lui. Beaucoup servaient à se défendre des brigands. D'ailleurs, il en fallait contre les Arabes. Tout cela avait appartenu à son père. Et au lieu de marcher derrière, le proconsul, il allait devant, à pas rapides. Puis il se rangea le long du mur, qu'il masquait de sa toge, avec ses deux coudes écartés. Mais le haut d'une porte dépassait sa tête. Vitellius la remarqua et voulut savoir ce qu'elle enfermait. Le Babylonien pouvait seul l'ouvrir. « Appelle le Babylonien !» On l'attendit. Son père était venu des bords de l'Euphrate s'offrir au grand Hérode avec 500 cavaliers pour défendre les frontières orientales. Après le partage du royaume, Hyacim était demeuré chez Philippe et maintenant servait Antipas. Il se présenta, un arc sur l'épaule, un fouet à la main. Des cordons multicolores serraient étroitement ses jambes torses, ses gros bras sortait d'une tunique sans manches et un bonnet de fourrure ombrageait sa mine, dont la barbe était frisée en anneaux. D'abord, il eut l'air de ne pas comprendre l'interprète, mais Vitellius lança un coup d'œil à Antipas, qui répéta tout de suite son commandement. Alors, Hyacim appliqua ses deux mains contre la porte, elle glissa dans le mur. Un souffle d'air chaud s'exhala des ténèbres. Une allée descendait en tournant. Ils la prirent et arrivèrent au seuil d'une grotte plus étendue que les autres souterrains. Une arcade s'ouvrait au fond sur le précipice qui, de ce côté-là, défendait la citadelle. Un chèvrefeuille, se cramponnant à la voûte, laissait retomber ses fleurs en pleine lumière. À ras du sol, un filet d'eau murmurait. Des chevaux blancs étaient là, une centaine peut-être, et qui mangeaient de l'orge sur une planche au niveau de leur bouche. Ils avaient tous la crinière peinte en bleu, les sabots dans des mitaines de sparterie, et les poils d'entre les oreilles bouffant sur le frontal comme une perruque. Avec leur queue très longue, ils se battaient mollement les jarrets. Le proconsul en resta muet d'admiration. C'étaient de merveilleuses bêtes, souples comme des serpents, légères comme des oiseaux. Elle partait avec la flèche du cavalier, renversait les hommes en les mordant au ventre, se tirait dans l'embarras des rochers, sautait par-dessus des abîmes, et pendant tout un jour, continuait dans les plaines leur galop frénétique. Un mot les arrêtait. Dès que la cime entra, elles vinrent à lui, comme des moutons qu'emparait le berger. Et avançant leur encolure, elles le regardaient inquiètes avec leurs yeux d'enfant. Par habitude, il lança du fond de sa gorge un cri rauque qui les mit en gaieté, et elles se cabraient, affamées d'espace, demandant à courir. Antipas, de peur que Vitellius ne les enlevât, les avait emprisonnés dans cet endroit spécial pour les animaux en cas de siège. « L'écurie est mauvaise, dit le proconsul, et tu risques de les perdre. Fais l'inventaire, si c'est Enna. » Le publicain retira une tablette de sa ceinture, compta les chevaux et les inscrivit. Les agents des compagnies fiscales corrompaient les gouverneurs pour piller les provinces. Celui-là flairait partout, avec sa mâchoire de fouine et ses paupières clignotantes. Enfin, on remonta dans la cour. Des rondelles de bronze au milieu des pavés, ça et là, couvraient les citernes. Il en observa une, plus grande que les autres, et qui n'avait pas sous les talons leur sonorité. Il les frappa toutes alternativement, puis hurla en piétinant. « Je l'ai, je l'ai! C'est ici le trésor d'Hérode !» La recherche de ces trésors était une folie des Romains. Il n'existait pas, jura le tétrarque. Mais cependant, qui avait-il là-dessous? Oh, rien. Un homme, un prisonnier. Montre-le, dit Vitellius. Le tétrarque n'obéit pas. Les Juifs auraient connu son secret. Sa répugnance à ouvrir la rondelle impatientait Vitellius. Enfoncez-la, cria-t-il au licteur. Il crut, en voyant une hache, qu'on allait décapiter Iaocanan. Et il arrêta le licteur au premier coup sur la plaque, insinua entre elle et les pavés une manière de crochet, puis, roidissant ses longs bras maigres, la souleva doucement. Elle s'abattit. Tous admirèrent la force de ce vieillard. Sous le couvercle doublé de bois s'étendait une trappe de même dimension. D'un coup de poing, elle se replia en deux panneaux. On vit alors un trou, une fosse énorme que contournait un escalier sans rampe, et ceux qui se penchèrent sur le bord aperçurent au fond quelque chose de vague et d'effrayant. Un être humain était couché par terre, sous de longs cheveux, se confondant avec les poils de bête qui garnissaient son dos. Il se leva. Son front touchait à une grille horizontalement scellée, et de temps à autre, il disparaissait dans les profondeurs de son antre. Le soleil faisait briller la pointe des tiares, le pommeau des glaives, chauffait à outrance les dalles, et des colombes, s'envolant des frises, tournoyaient au-dessus de la cour. C'était l'heure où Manaël, ordinairement, leur jetait du grain. Il se tenait accroupi devant le tétrarque, qui était debout près de Vitellius. Les Galiléens, les prêtres, les soldats formaient un cercle par derrière. Tous se taisaient dans l'angoisse de ce qui allait arriver. Ce fut d'abord un grand soupir, poussé d'une voix caverneuse. Hérodias l'entendit à l'autre bout du palais. Vaincue par une fascination, elle traversa la foule et elle écoutait, une main sur l'épaule de Manaël, le corps incliné. La voix s'éleva. « Malheur à vous, pharisiens et sadducéens, race de vipères, outre gonflés, cymbales retentissantes !» On avait reconnu Iaocanan. Son nom circulait. D'autres accoururent. « Malheur à toi, ô peuple, et aux traîtres de Juda, aux ivrognes d'Éphraïm, à ceux qui habitent la vallée grasse et que les vapeurs du vin font chanceler. Qu'ils se dissipent comme l'eau qui s'écoule, comme la limace qui se fond en marchant, comme l'avorton d'une femme qui ne voit pas le soleil. Il faudra, Moab, te réfugier dans les cyprès comme les passereaux dans les cavernes comme les gerboises. Les portes des forteresses seront plus vite brisées que des écailles de noix, les murs crouleront, les villes brûleront, et le fléau de l'Éternel ne s'arrêtera pas. Il retournera vos membres dans votre sang comme de la laine dans la cuve d'un teinturier. Il vous déchirera comme une herse neuve. Il répandra sur les montagnes tous les morceaux de votre chair. De quel conquérant parlait-il ? Était-ce de Vitellius ? Les Romains seuls pouvaient produire cette extermination. Des plaintes s'échappaient. Allez, assez qu'ils finissent ! Il continua plus haut. Auprès du cadavre de leur mère, les petits-enfants se traîneront sur les cendres. On ira la nuit chercher son pain à travers les décombres au hasard des épées. Les chacals s'arracheront des ossements sur les places publiques où le soir les vieillards causaient. Des vierges, en avalant leurs pleurs, joueront de la cithare dans les festins de l'étranger. Et tes fils les plus braves baisseront leur échine écorchée par des fardeaux trop lourds. Le peuple revoyait les jours de son exil, toutes les catastrophes de son histoire. C'étaient les paroles des anciens prophètes. Yohanan les envoyait comme de grands coups l'une après l'autre. Mais la voix se fit douce, harmonieuse, chantante. Il annonçait un affranchissement, des splendeurs au ciel, le nouveau-né un bras dans la caverne du dragon, l'or à la place de l'argile, le désert s'épanouissant comme une rose. Ce qui, maintenant, aux 60 kikars ne coûtera pas une obole, des fontaines de lait jailliront des rochers, on s'endormira dans les pressoirs le ventre plein. Quand viendras-tu, toi que j'espère ? D'avance, tous les peuples s'agenouillent, et ta domination sera éternelle, fils de David. Le tétrarque se rejeta en arrière, l'existence d'un fils de David l'outrageant comme une menace. Yohanan l'invectiva pour sa royauté. Il n'y a pas d'autre droit que l'Éternel. Et pour ses jardins, et pour ses statues, et pour ses meubles d'ivoire, comme l'impie Akab. Antipas brisa la cordelette du cachet suspendu à sa poitrine, et le lança dans la fosse, en lui commandant de se taire. La voix répondit, « Je crierai comme un ours, comme un âne sauvage, comme une femme qui enfante. Le châtiment est déjà dans ton inceste. Dieu t'afflige de la stérilité du mulet. » Et des rires s'élevèrent, pareils au clapotement des flots. Vitellius s'obstinait à rester. L'interprète, d'un ton impassible, redisait dans la langue des Romains toutes les injures que Yohanan rugissait dans la sienne. Le tétrarque et Hérodias étaient forcés de les subir deux fois. Il haletait pendant qu'elle observait béante le fond du puits. L'homme effroyable se renversa la tête et, en poignant les barreaux, y colla son visage qui avait l'air d'une broussaille où étincelaient deux charbons. « Ah, c'est toi, Isabelle! Tu as pris son cœur avec le craquement de ta chaussure. Tu hennissais comme une cavale. Tu as dressé ta couche sur les monts pour accomplir tes sacrifices. Ah, le Seigneur arrachera tes pendants d'oreilles, tes robes de pourpre, tes voiles de lin, les anneaux de tes bras, les bagues de tes pieds, et les petits croissants d'or qui tremblent sur ton front, tes miroirs d'argent, tes éventails en plumes d'autruche, les patins de nacre qui osent ta taille, orgueil de tes diamants, les senteurs de tes cheveux, la peinture de tes ongles, tous les artifices de ta mollesse, et les cailloux manqueront pour lapider l'adultère. » Elle chercha du regard une défense autour d'elle. Les pharisiens baissaient hypocritement leurs yeux, les sadducéens tournaient la tête, craignant d'offenser le proconsul. Antipas paraissait mourir, la voix grossissait, se développait, roulait avec des déchirements de tonnerre, et l'écho dans la montagne la répétant, elle foudroyait Machaerus d'éclats multipliés. Étale-toi dans la poussière, fille de Babylone, fais moudre la farine, ôte ta ceinture, détache ton soulier, trousse-toi, passe les fleuves, ta honte sera découverte, ton opprobre sera vu, les sanglots te briseront les dents, l'Éternel exècre la puanteur de tes crimes. Maudite, maudite, crève comme une chienne. La trappe se ferma, le couvercle se rabattit. Manaël voulait étrangler Yaokaman. Hérodias disparut. Les pharisiens étaient scandalisés. Antipas, au milieu d'eux, se justifiait. Sans doute, reprit Éléazar, il faut épouser la femme de son frère, mais Hérodias n'était pas veuve, et de plus elle avait un enfant, ce qui constituait l'abomination. Erreur, erreur, objecta le sadducéen Jonatas. La loi condamne ces mariages, sans les proscrire absolument. L'important est pour moi bien injuste, disait Antipas, car enfin, Absalom a couché avec les femmes de son père, Judas avec sa bru, Ammon avec sa sœur, Lot avec ses filles. Aulus, qui venait de dormir, reparut à ce moment-là. Quand il fut instruit de l'affaire, il approuva le tétrarque. On ne devait point se gêner pour de pareilles sottises. Et il riait beaucoup du blâme des prêtres et de la fureur de Yaokanan. Hérodias, au milieu du perron, se retourna vers lui. « Tu as tort, mon maître. Il ordonne au peuple de refuser l'impôt. »« Est-ce vrai ?» demanda tout de suite le public. Les réponses furent généralement affirmatives. Le tétrarque les renforçait. Vitellius songea que le prisonnier pouvait s'enfuir. Et comme la conduite d'Antipas lui semblait douteuse, il établit des sentinelles aux portes, le long des murs et dans la cour. Ensuite, il alla vers son appartement. Les députations des prêtres l'accompagnèrent. Sans aborder la question de la sacrificature, chacune émettait ses griefs. Tous l'obsédaient, il les congédia. Jonatas le quittait quand il aperçut dans un créneau Antipas, causant avec un homme à longs cheveux et en robe blanche, un Essénien, et il regretta de l'avoir soutenu. Une réflexion avait consolé le tétrarque. Yaokanan ne dépendait plus de lui. Les Romains s'en chargeaient. Quel soulagement ! Fanuel se promenait alors sur le chemin de ronde. Il l'appela, et désignant les soldats, « Ils sont les plus forts. Je ne peux le délivrer. » « Ce n'est plus ma faute !» La cour était vide, les esclaves se reposaient. Sur la rougeur du ciel qui enflammait l'horizon, les moindres objets perpendiculaires se détachaient en noir. Antipas distingua les salines à l'autre bout de la mer morte et ne voyait plus les tentes des Arabes. Sans doute ils étaient partis. La lune se levait, un apaisement descendait dans son cœur. Fanuel, accablé, restait le menton sur sa poitrine. Enfin, il révéla ce qu'il avait à dire. Depuis le commencement du mois, il étudiait le ciel avant l'aube, la constellation de Persée se trouvant au zénith. Agala se montrait à peine, Algol brillait moins, Miracoti avait disparu, d'où il inaugurait la mort d'un homme considérable, cette nuit même, dans Machaerus. Lequel ? Vitellius était trop bien entouré. On n'exécuterait pas Yaokanan. C'est donc moi, pensa le tétrarque. Peut-être que les Arabes allaient revenir. Le proconsul découvrirait ses relations avec les Parthes. Des sicaires de Jérusalem escortaient les prêtres. Ils avaient sous leurs vêtements des poignards, et le tétrarque ne doutait pas de la science de Phanuel. Il eut l'idée de recourir à Hérodias. Il la haïssait pourtant, mais elle lui donnerait du courage. Et tous les liens n'étaient pas rompus de l'ensorcellement qu'il avait autrefois subi. Quand il entra dans sa chambre, du cinnamome fumait sur une vasque de porphyre, et des poudres, des onguents, des étoffes pareilles à des nuages, des broderies plus légères que des plumes, étaient dispersées. Il ne dit pas la prédiction de Phanuel, ni sa peur des Juifs et des Arabes. Elle l'eût accusé d'être lâche. Il parla seulement des Romains. Vitellius ne lui avait rien confié de ses projets militaires. Il le supposait ami de Caius, que fréquentait Agrippa. Et il serait envoyé en exil, ou peut-être on l'égorgerait. Hérodias, avec une indulgence dédaigneuse, tâcha de le rassurer. Enfin, elle tira d'un petit coffre une médaille bizarre ornée du profil de Tibère. Cela suffisait à faire pâlir les lecteurs et fondre les accusations. Antipas, ému de reconnaissance, lui demanda comment elle l'avait. « On me l'a donnée, reprit-elle. Sous une portière en face, un bras nu s'avança, un bras jeune, charmant et comme tourné dans l'ivoire par Polyclète. D'une façon un peu gauche et cependant gracieuse, il ramait dans l'air pour saisir une tunique oubliée sur une escabelle près de la muraille. Une vieille femme la passa doucement en écartant le rideau. Le tétrarque eut un souvenir qu'il ne pouvait préciser. « Cette esclave est-elle à toi ?»« Que t'importe ?» répondit Hérodias.